7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, on parle des politiques de déguerpissement dans les villes pauvres. Ça consiste tout simplement à libérer les espaces publics occupés illégalement par des vendeurs ambulants ou des constructions informelles pour des raisons sanitaires, économiques, voire politiques. Alors, quelles conséquences pour ces personnes déplacées qui s'étaient évidemment construit leur propre quartier, leurs emplois, leur réseau de solidarité? Les petits commerces informels sont-ils une nuisance ou une nécessité? Quelle convoitise immobilière et financière aussi sur ces terrains? Les voisins, bien sûr, appelez-nous tout de suite si vous êtes témoin ou concerné par les politiques de déguerpissement dans votre pays. Ces politiques sont-elles le passage obligé de la modernisation des villes du Sud, de Phnom Penh à Abidjan? Vous nous appelez tout de suite, surtout n'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71. Nous allons discuter avec nos invités. Amandine Spire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, chercheuse au CESMA. C'est le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains, asiatiques et relié à l'Université Paris Diderot. Également avec nous, Benjamin Michelon, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes socio-urbaniste au groupe 8, qui est un bureau d'études sur les villes en développement, professeur associé à l'école d'urbanisme de Paris, et puis vous êtes aussi président de l'association ADP Villes en développement. Il y a de quoi faire en ce moment, notamment avec la croissance démographique énorme dans les villes africaines. On entendra aussi dans quelques instants une géographe française à Phnom Penh, au Cambodge, Julie Blot, et chercheuse au centre du Sud-Est, Asie du Sud-Est.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Julie Blot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, vous êtes chercheuse au Centre Asie du Sud-Est et vous travaillez tout particulièrement en ce moment à Phnom Penh, là où vous résidez, au Cambodge, sur les politiques de déguerpissement. Alors, quelle est la réalité de ces politiques de déguerpissement au Cambodge ?
Au Cambodge, les déguerpissements se font principalement au coup par coup en fonction des investissements privés. Jusqu'à une période récente, de la façon la plus commune de procéder était surtout de mettre les habitants dans des camions de sorte et de les emmener sur de nouveaux terrains lointains en périphérie rurale. Ils arrivent sur des sites qui ne seront pas viabilisés le plus souvent. Pas d'eau, pas d'électricité. Ils sont loin des emplois qu'ils occupaient aussi. Ce sont des vendeurs de rue pour la plupart, des cyclocousses, des mototaxis. Donc pour eux, dans ces périphéries rurales, il n'y a aucune opportunité de travail. Et ils sont donc isolés du milieu urbain dans lequel ils évoluaient. Et les indemnisations foncières étaient faibles, voire inexistantes. La prise en charge sociale était souvent organisée par les ONG, les organisations non gouvernementales, qui géraient ces déplacements dans l'urgence. En cela, la situation cambodgienne peut être rapprochée de pratiques autoritaires qui sont souvent dans certains pays africains, comme le Tchad, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Ce qu'on pourrait dire sur la spécificité de la situation cambodgienne, c'est qu'il y a un certain sentiment d'injustice qui est ressenti par la population phnompénoise, notamment au moment des évictions, qui sont souvent comparées aux déplacements forcés qui avaient lieu pendant la période des Khmers rouges. Les Bidonvillois estimaient que résider sur les terrains en centre-ville était légitimes puisqu'ils s'étaient réinstallés après la guerre.
Ces personnes qui sont délocalisées arbitrairement, violemment, finissent toujours par revenir dans le centre-ville de manière informelle pour retrouver des petits boulots, pour retrouver l'eau, pour retrouver l'électricité, etc.
Voilà, une bonne partie d'entre eux décident de retourner en centre-ville. Soit ils abandonnent le terrain qui leur a été confié par les autorités, soit ils le revendent, soit ils le laissent en stand-by pendant quelques années. Parfois, ils y laissent leurs enfants ou les personnes âgées de la famille pour eux-mêmes pouvoir continuer de travailler en centre-ville, soit en vivant dans la rue, soit en louant une chambre pour le moins cher possible.
Moderniser la ville de Phnom Penh, est-ce l'unique mobile dans les politiques de déguerpissement ?
On peut y voir aussi une tentative d'exclure des populations pauvres qui gêne un peu avec l'image de marque qu'on voudrait donner d'une capitale d'un pays qui est en plein développement. Cette ségrégation sociale qu'on voit dans de nombreux pays, et ce sont également des populations qui politiquement peuvent être plus proches de l'opposition et qui donc dérangent les autorités. La situation politique est en train de changer au Cambodge, notamment parce que l'opposition politique prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années et que les opérations de nettoyage urbain sont de moins en moins le cas. On essaye de négocier davantage, notamment ces derniers jours, on parle beaucoup du White Building, qui est un bâtiment emblématique de la politique des logements sociaux des années 50, qui est en train d'être détruit parce que le terrain a été cédé à un investisseur privé et plutôt que de mettre les habitants dans les camions, cette fois-ci, une véritable négociation financière a eu lieu. La plupart des habitants ont été relativement satisfaits de la somme qui a été offerte et le déménagement s'est passé ces derniers jours dans une situation plutôt calme et le bâtiment sera prochainement détruit. Mais au moins, les habitants y ont trouvé leur compte.
Voilà, c'était Julie Blot, chercheuse au Centre Asie du Sud-Est à Phnom Penh. Nous avons enregistré son analyse hier par téléphone. Cette comparaison avec le génocide Khmer, évidemment, est très exagérée, mais c'est dire aussi la façon dont sont ressenties les choses, non, Amandine Spire, concernant ces déguerpissements à Phnom Penh.
Oui, l'idée d'une continuité dans le temps de pratiques autoritaires, en fait, de réorganisation de l'espace, que ce soit du coup en milieu rural, à certains moments, ou en milieu urbain, aujourd'hui, où se concentrent des enjeux de pouvoir, explique certainement cette comparaison exagérée, mais peut-être formulée par certains habitants.
Une démonstration de force qui serait presque donc volontaire, hein, orchestrée
Une démonstration de force du pouvoir de contrôler et de réorganiser les usages de l'espace urbain, certainement, oui.
Benjamin Michelon.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y ait une continuité historique, mais c'est vrai qu'on peut aussi aller jusqu'à la colonisation dans les pays africains. Souvent, les pratiques du déguerpissement, c'est un peu de l'hygiénisme, finalement, qu'on pratiquait dans les années 20, dans la planification urbaine, où on essayait justement d'éradiquer certaines maladies, et donc on repoussait certaines populations au-delà de la ville formelle, la ville faite par les colons.
Alors, sur les enjeux politiques et surtout les protestations politiques que suscitent les déguerpissements, je vous lis le message de Jacob à Dakar. Il nous dit ici, la mairie a tenté de faire de son mieux en installant les marchands ambulants dans un immeuble, mais ils reviennent peu à peu sur les trottoirs du centre-ville. Donc ça, c'est allusion au projet du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est actuellement incarcéré. Ce genre d'action, nous dit Jacob, dite de déguerpissement, a causé le printemps arabe, notamment avec le jeune Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé après que sa marchandise ait été confisquée. Prudence donc, car ces jeunes marchands sont frustrés à l'idée de voir leur municipalité ne faire pratiquement aucun effort et mettre l'argent dans d'autres priorités, la politique. On voit bien quand même que le sujet est très largement politisé, en fait, aujourd'hui.
Le sujet est très politique, en fait. Effectivement, la question de la concertation est très importante et on le voit bien dans ce qui est dit dans votre témoignage, c'est qu'il faut véritablement maintenant négocier avec ces petits commerçants comment est-ce qu'on va les réinstaller, puisque bien souvent on les met dans des immeubles à étages, ce qui ne correspond pas à leur façon de vendre initiale. Ils ne sont pas habitués, ils ne savent pas faire et donc s'il y avait peut-être plus de concertation, peut-être qu'on arriverait mieux à les réinstaller.
Et aujourd'hui, des ONG, des réseaux d'associations, d'ONG internationales essayent d'empowerer, ce mot à la mode qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas d'essayer de donner de la voix et d'organiser des résistances face à des projets de déguerpissement ou d'éviction et qui fonctionnent, que ce soit pour des commerçants de rue ou pour des résidents, parce qu'il y a également des déguerpissements qui touchent le tissu résidentiel.
L'inefficacité des politiques de déguerpissement, en tout cas, font quand même souvent l'unanimité. Mama nous écrit ce message de Nouakchott en Mauritanie, nous dit « Ici, on appelle ça des Gazra ou des Kébé. Les villes ne pourront pas se moderniser avec une telle désorganisation. À Nouakchott, les autorités ont fait beaucoup d'efforts pour aménager correctement les quartiers, mais à chaque fois, de nouveaux Gazra se forment. C'est devenu un vrai business. Les gens font du Gazra puis revendre le terrain une fois que le lotissement est fait. C'est un véritable problème parce que la ville se développe de façon horizontale et les réseaux d'eau et d'électricité ne suivent pas. Ça crée ainsi des utilisations frauduleuses. »
La question à Nouakchott est importante. Notamment, il y a eu la Kébé d'Elmina qui, en 2003, a été un premier exemple de réinstallation avec la Banque mondiale, avec la directive spécifique où on a proposé à des gens des nouvelles parcelles pour construire des routes dans le quartier de la Kébé. Et aujourd'hui, 13 ans après, 15 ans après, la Kébé est devenue un quartier en dur, finalement, qui s'est développé. Donc, c'est vrai que, véritablement, on a un afflux de population. La question, c'est comment y répondre. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment répondre à ceux qui sont déjà installer dans des quartiers précaires. Donc il y a ce double enjeu qui est très compliqué pour les politiques.
Aujourd'hui, comment se positionnent les bailleurs de fonds qui, en partie, financent aussi des programmes pour éviter les déguerpissements? Et là, on parlerait plutôt de délocalisation ou de relocalisation.
Les bailleurs de fonds se positionnent par rapport à la directive dont je vous parlais de la Banque mondiale, l'OP412, qui est très spécifique et qui spécifie qu'il faut d'abord minimiser les décasements dans le cadre d'une opération, c'est-à-dire que si on construit une route, s'il y a une maison qui dépasse sur la route, on va essayer soit de réduire l'emprise de la route, soit de faire un virage pour éviter la maison. Ça, c'est dans la pratique.
Ça, c'est dans un monde idéal.
C'est dans un monde idéal, mais c'est ce qu'on essaie de faire quand même dans certains projets pour diminuer, parce qu'après, ça coûte très cher et socialement, et ça coûte très cher économiquement de déplacer les gens.
Pour aller dans ce sens, les directives de la Banque mondiale aujourd'hui sont souvent obligent la concertation, la compensation, et c'est souvent une condition en fait d'octroi du financement que le respect de ces bonnes pratiques, en théorie en effet, puisqu'en pratique de nombreux contournements existent, aussi bien du côté de l'État que du côté des citadins. Et juste un petit exemple, au Togo, comme ça, une grande rocade qui a été créée en 2011 et qui était prévue depuis une vingtaine d'années.
À Lomé,
au Togo, oui. Cette infrastructure routière a entraîné le déplacement de quelques centaines de ménages. Ce n'est pas une grande opération, mais qui a entraîné la création d'une institution propre, le CII, le Comité interministériel des indemnisations, pour mettre en place, justement, pour faire accepter ce projet de modernisation et faire partir ces citadins dans des conditions jugées acceptables ou normales pour obtenir le financement.
Ça veut dire que ça ne concerne pas forcément des dizaines de milliers de personnes, mais ça fait beaucoup de bruit politiquement et économiquement.
Exactement, et cette opération a coûté très cher, et la non-reproductibilité du financement octroyé dans le cadre de cette opération est aujourd'hui très problématique, puisqu'elle a ouvert une brèche dans le cadre d'un régime autoritaire, et donc du coup où des contestations essayent aujourd'hui de se structurer pour revendiquer un droit à occuper l'espace urbain, et parfois un droit à rester, qui n'est pas sans poser problème.
Alors, nous allons bien sûr sillonner le continent africain à la lumière de vos appels, de vos témoignages également sur les réseaux sociaux. On a reçu énormément de points de vue et de messages sur les réseaux sociaux. Draman nous appelle de Bamako, au Mali. Bonjour Draman.
Bonjour Emmanuel.
Draman, vous souhaitez nous parler de la politique de déguerpissement principalement à Bamako au Mali. Les Maliens, vous dites, sont divisés sur la question. Alors vous, quel est votre point de vue et comment vous vous sentez concerné par le sujet?
Effectivement, avant de commencer, mes condoléances aux victimes de l'attentat du campement. Ensuite... le cas de Bamako, il y a eu un déguerpissement au début de l'année, juste avant le sommet Afrique-France. En janvier, oui. Donc, la nouvelle gouverneure de la ville, elle a ordonné un déguerpissement total de la ville, des vendeurs ambulants, des boutiques inappropriées sur la route, etc. Donc, avec des bulldozers, ils sont venus, ils ont commencé à tout casser. Au début, la population était vraiment réticente. Il y a eu des mouvements, mais quand les gens ont vu qu'ils ne faisaient pas les distinctions, il y avait une limite. Quand ça dépasse, ils cassaient. Donc, les gens ont commencé par finir à adhérer à la cause, mais à un moment donné, ils ont arrêté les casses. Les gens pensaient qu'ils allaient mettre en valeur les endroits vidés. Mais comme d'habitude, il n'y a pas eu de communication, les gens ne savent pas pourquoi, mais ils ont arrêté l'opération. Il n'y a pas eu de suite, ils n'ont pas mis en valeur les endroits vidés. Alors, du coup, les gens...
Pourquoi faire, c'est ça. La question sur toutes les lèvres, c'est pourquoi.
Pourquoi, voilà. Donc, du coup, les gens qui ont été déguerpis sont revenus, à part quelques axes... les gens sont... C'est même pire qu'avant, parce que là, maintenant, c'est presque impossible de circuler en ville.
Ça veut dire que quand les gens reviennent, vous dites que c'est pire qu'avant. Mais pourquoi? Parce que c'est encore surtout, plus anarchique?
C'est plus anarchique, surtout devant l'Assemblée nationale du Mali. Alors, une institution nationale derrière, on ne peut même pas circuler, c'est presque impossible.
Il y a eu des centaines de jeunes, évidemment, qui ont, surtout les jeunes, qui sont pénalisés, qui sont des vendeurs de cartes de téléphone, notamment à Malitelda, c'est bien ça. Ces déguerpissements, en fait, ont eu lieu plusieurs mois avant le sommet, c'était en juin dernier, puis ensuite ça s'est poursuivi. Sur le pourquoi... pourquoi, alors que le terrain ensuite est resté vierge, et puis évidemment du coup les gens vont se réinstaller. Vous êtes nombreux, Draman, merci de nous avoir appelés, parce qu'on a pas mal de messages sur ce pourquoi. Des auditeurs, par exemple, comme Samuel Ayanoundé, nous dit le problème, c'est qu'il faut respecter les projets qui justifient les déguerpissements. Parfois, les endroits qui ont été rasés restent des terrains plats et vides, ce qui n'aide évidemment personne. Même constat de Cédou à Niamey. Les petits vendeurs qui vendaient au bord des voies ont été presque tous virés. Les places libérées ne sont toujours pas aménagées. Et au Niger, donc à Niamey, il faut le rappeler, le gouverneur de Niamey a ordonné le lancement d'une opération en septembre dernier. Et évidemment, ça avait provoquer une grande colère. Alors pourquoi les autorités politiques ne font rien de ces terrains qui sont rasés? C'est la question que je vous pose à tous les deux.
Non, c'est une grande question, parce que en fait, bien souvent, on parle justement, vous parlez de politique de déguerpissement, il n'y a pas de politique de déguerpissement, comme le disait Julie Blot dans son interview, c'est des actions au coup par coup, et ce qui manque, c'est une vision, bien souvent, une vision globale. Donc à un moment donné, il y a un acte d'autorité qui est là, et qui veut prouver que l'État reprend la main sur l'espace public, mais sans véritablement avoir de visibilité sur ce qui est fait après, et... Parfois, les financements manquent par rapport aux projets qui doivent arriver, ou les projets sont annulés, ce qui fait qu'on revient à zéro et qu'il n'y a pas de politique d'espace public véritablement.
Oui, et pour compléter, l'État reprend la main et souvent accompagné des investisseurs privés, parce qu'il y a énormément de spéculation, ce qui peut expliquer le fait que les terrains restent vides pour un certain
temps.
Parce
que ces terrains, en fait, souvent, ils sont assez bien situés, hein, évidemment.
Ce sont généralement des terrains très bien situés. Ouais. Enfin, il y a un intérêt, évidemment, économique important.
Alors, globalement, les voisins sont partagés entre l'indignation, la résignation. On entendait le témoignage de Draman au téléphone. Aziza est à Bukavu. Il nous dit « Depuis quand la pauvreté est devenue un délit? Moi, j'ai été choquée de voir comment chez moi, la police s'en prenait à de pauvres femmes sur un marché simplement parce qu'elles faisaient mauvaise figure. » Il l'écrit avec des guillemets. Quelle alternative ont-elles? Aucune. Encore Mahmouda N'Djamena nous dit « Les déguerpissements sont malvenus au Tchad. On vire les gens sans objectif, parfois des quartiers entiers, sans toutefois s'occuper du lieu par la suite. C'est vraiment pitoyable. » Et Lucien à Cotonou, alors évidemment, Cotonou, on le sait, ça a été une promesse de campagne du président Patrice Talon au Bénin. Vous êtes nombreux d'ailleurs à poster des message du Bénin. Je ne suis pas contre le déguerpissement en soi, ça nous permet de maintenir nos villes propres, mais je n'apprécie pas du tout la manière qu'ont les gouvernements de faire partir les populations dérangeantes. Et là aussi, les voisins mettent des guillemets. Alors, sur le fond, les habitants ne sont pas contre les politiques de déguerpissement en réalité.
C'est toute la question de la communication, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi expliquer pourquoi on fait le déguerpissement, quels sont les objectifs finaux après le déguerpissement. Et bien souvent, il y a toute cette question de concertation qui n'est pas là parce qu'on attend l'investisseur. Souvent, on déguerpit des terrains en attente, en disant « voilà, maintenant que le terrain va être déguerpi, il est vide, donc il y a un investisseur miracle qui va se présenter, qui va construire un building, qui va construire quelque chose de moderne, puisqu'on doit faire face, c'est toujours cette modernité, cette modernisation qui arrive, et on se retrouve le bec dans l'eau parce que l'investisseur n'est pas forcément là. »
Quel est l'intérêt des communes, des mairies, pour lever l'impôt? Est-ce qu'elles parviennent à lever des impôts sur les vendeurs de trottoirs, sur les vendeurs ambulants? Est-ce qu'elles auraient intérêt, elles pourraient lever plus d'impôts avec un commerce formel? Comment ça se passe, Amandine Spire?
En général, les vendeurs de rue payent des impôts, puisqu'ils occupent l'espace public de manière justement considérée, enfin de manière illégale selon les autorités, mais en contrepartie pour le nettoyage, pour l'entretien de la rue. Donc ces commerçants de rue payent des taxes.
Il y a des droits d'exploitation, il y a des droits annuels d'installation, il y a aussi les droits de publicité pour les kiosques de téléphonie.
Tout à fait. Alors après, les kiosques de téléphonie, tout dépend si ce sont des entreprises formelles, parce que justement les opérateurs téléphoniques ont par exemple le droit d'installer des kiosques dans la rue. Ça occupe le trottoir. Mais d'ailleurs, bizarrement, ce n'est pas l'objet de contestation quand on parle de la congestion, de l'engorgement, qui est un peu une préoccupation dans les discours de beaucoup.
Ouais, qui songerait à faire la révolution contre Orange. C'est
exactement.
Ça
voilà,
vous restez avec nous, Benjamin Michelon, Amandine Spire. Les voisins, les voisines, appelez-nous. On parle donc des déguerpissements, surtout si vous êtes un élu local, par exemple, hein, puisque là, vous l'avez entendu avec les témoignages, vous en avez pris pour votre grade. Appelez-nous aussi, 33 1 84 22 71 71. Y a-t-il des exemples de déguerpissement justifiés et des modèles? On en reparle juste après le...
Salut!
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Les politiques de déguerpissement à l'égard des vendeurs ambulants, mais aussi des logements informels, pour ne pas dire des bidonvilles, ces politiques, on en parle aujourd'hui, sont-elles le passage obligé de la modernisation des villes du Sud? C'est une question bien sûr que l'on pose. Sinon, comment reloger les plus pauvres sans les couper bien sûr de leur emploi? Les voisins, appelez-nous si vous êtes témoin ou concerné dans votre pays. Si vous êtes aussi un élu local d'ailleurs, pourquoi pas faire entendre votre voix, puisque on sait que le problème est compliqué aussi pour les élus locaux. Nous en discutons avec nos invités. Benjamin Michelon, socio-urbaniste au groupe 8, qui est un bureau d'études sur les villes en développement. Amandine Spear, géographe, chercheuse au CESMA, le centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains, asiatiques de l'université Paris Diderot. Notre numéro de téléphone, je vous le rappelle, les voisins, 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à un voisin qui nous appelle de RDC. Bonjour Claude, vous êtes à Lubumbashi, soyez le bienvenu.
Bonjour, c'est Claude Kigwe.
Oui, nous vous écoutons.
Oui, je vous appelle à partir de Lubumbashi. Oui, j'ai dit les déguerpissements de vendeurs ambulants. Ici chez nous, ça se passe presque tous les jours. Et on constate que ces vendeurs sont chassés d'une façon méchamment. Et ces vendeurs, après avoir vu, ils laissent des tas des immondices au niveau de la grande place de la ville et aussi au niveau de la ville. Et nous voyons beaucoup plus, les vendeurs sont caractérisés par la vente des sachets, la vente de l'eau. Et vous allez voir que les sachets vont rester partout au niveau de la ville, c'est la saleté qui se caractérise par là. Et vous allez voir, beaucoup de vendeurs sont des femmes et des enfants.
Oui. Ça veut dire que vous, en tant qu'habitant de Lubumbashi, vous trouvez que la ville est sale à cause du commerce informel et des vendeurs ambulants?
Oui, la ville est devenue trop sale, et surtout c'est après leur passage. Et vous allez voir que la ville va changer de... Il y aura d'abord un mouvement de masse quand ils sont là en train de vendre, et après la ville va changer et il y aura une très bonne saleté partout dans la ville.
Et alors, que se passe-t-il en fin de journée? Alors, c'est vers quelle heure donc on déguerpit tous ces vendeurs ambulants en général à Lubumbashi?
Et pendant la journée, 7h, 8h, les vendeurs ne sont pas là. Les vendeurs arrivent au niveau à partir des après-midi vers 16h, 17h. Et ils vont traîner pendant une ou 4 heures en train de vendre. Et c'est vers 19h, 20h que... les vendeurs vont quitter la place.
Oui, enfin, ils vont quitter la place, pas tout seuls, hein, me semble-t-il.
Oui, tout seuls, mais il y a aussi des jours qui sont traqués par la police.
Oui.
Et à ces jours-là, ils sont traqués par la police, et il y a des jours précis. Et ces jours-là, les vendeurs ne viennent pas vraiment à temps. Ils viennent vers 20h ou bien 19h. À ce moment-là, ils viennent salir aussi la ville.
Oui, on est rarement déguerpi tout seul, hein, en effet. Merci beaucoup, Claude, de nous avoir appelé. Brejnev aussi nous parle des déguerpissements au Congo-Brazzaville. Il dit, alors nous, on a essayé cette méthode il y a quelques années, ça n'a pas marché, l'économie du pays repose sur le secteur informel, donc c'est tout à fait vain. On voit bien tout de même que les auditeurs, même s'ils aspirent à une ville mieux organisée, comprennent l'inefficacité des politiques de déguerpissement.
Les politiques de déguerpissement, elles doivent être toujours pensées aussi à l'aune de l'après. C'est-à-dire, comme dit votre auditeur, si on ne réfléchit pas une fois, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace? Comment est-ce qu'on évite qu'il y ait des déchets? Comment est-ce qu'on gère cet espace public? C'est la grosse question, et ça remet en question tout le déguerpissement, finalement. C'est toute la question. Je reviens juste sur un exemple à Niamey. À Niamey, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait beaucoup de vendeurs de rue, et donc il y a une politique récemment qui voulait déguerpir les gens dans la rue. Mais en même temps, on se rend compte que dans les marchés, qui sont des marchés fermés, et ce sont devenus des lieux de stockage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de commerce. Donc le commerce s'est déplacé dans la rue, les gens ont pris l'habitude d'arrêter leur voiture, d'acheter directement au plus près le pain ou les produits de première nécessité, ce qui fait que les commerçants aussi s'adaptent à la demande des consommateurs.
Et oui.
Tout le monde est responsable.
Oui. Ce qui veut dire qu'un marché en dur, ce n'est pas forcément ce que souhaite la population, les consommateurs en fait.
Les consommateurs, ils se sont adaptés aussi à l'automobile, hein, finalement. Donc maintenant, ils veulent avoir le plus proche, le plus près.
C'est ça. Le vendeur ambulant, c'est le drive des pays pauvres.
Exactement.
D'une certaine manière, non? On pourrait le dire comme ça. Amanda Spear.
Oui, en fait, je ne sais pas, je pense que la question est compliquée, en effet, cette adéquation entre l'offre et la demande, parce que les pratiques sont encore, sont très, très différenciées en fonction des catégories sociales, en fonction des quartiers, si on est au centre-ville, en périphérie, l'enjeu n'est pas forcément le même. Et je pense aussi, pour ajouter un élément à la discussion, que se pose vraiment la question du droit, en fait, de la manière dont on se représente le droit que l'on a à occuper l'espace, parce que parfois, l'espace public, c'est un peu l'espace. C'est la prolongation de l'espace privé, l'espace qui est devant la concession, par exemple, devant le logement familial. On le considère, on en prend soin, on l'entretient, et d'ailleurs, on considère que du coup, on a le droit de le mettre en valeur quelque part en y exerçant une petite activité économique génératrice de revenus qui vient compléter, qui permet d'assurer en même temps des tâches domestiques, d'assurer l'assurance des enfants.
On l'entretient ou pas, parce qu'on a beaucoup de messages quand même d'auditeurs qui nous disent que le commerce ambulant contribue quand même rarement à la propreté, alors organisation des villes, globalement.
Alors là, c'est vrai que certainement, ça dépend très fortement, ça dépend des contextes, mais j'avais en tête, moi, l'exemple de Lomé, qui est, et quand on visite Lomé, quand on reste à Lomé, on est frappé de voir à quel point, chaque matin, la première chose qu'on fait quand on se lève, on balaye sa cour et on balaye devant chez soi. Donc il y a quand même une nécessité et une volonté d'entretenir, pour des raisons de santé, notamment, le cadre de vie quotidien. Donc je pense que c'est un peu plus...
Alors aujourd'hui, pour mener des politiques de déguerpissement, d'ailleurs, est-ce qu'il faut continuer d'utiliser ce mot qui forcément est très connoté avec les violences qu'il suscite, ça appelle quand même souvent le bulldozer, même si en général les habitants, ces commerçants ont été prévenus, d'ailleurs il faut le préciser, ça a été le cas notamment au Bénin, ils sont prévenus plusieurs semaines, plusieurs mois avant, leur case, leur cabane est marquée avec une croix rouge, bon, on peut pas dire que ça soit une surprise totale. Mais dans quel cas il y a une véritable concertation, des indemnisations, des relocalisations, des titres fonciers? Quelles sont aujourd'hui les pistes d'action intéressantes pour vous, Amandine Spire, vous qui avez travaillé sur le cas du Togo?
Au Togo, donc comme je disais, il y a le cas aujourd'hui, les déguerpissements s'accompagnent beaucoup de ce qu'on appelle la relocalisation. En anglais, c'est le resettlement, qui est une nouvelle injonction de la Banque mondiale, qui fait partie donc de ces droits et devoirs que l'on doit reconnaître aux citadins. En même temps, donc l'idée, c'est de donner, en plus d'une compensation numéraire, un terrain.
Une compensation numéraire, c'est-à-dire
une compensation en argent. Ouais. On évalue le prix de la maison en fonction de grilles très précises qui mesurent vraiment les matériaux de construction, la superficie du terrain, etc., etc., la manière dont on a mis en valeur, même si le titre foncier n'est pas officiel, mais un titre coutumier, par exemple, peut avoir valeur de droit à occuper le sol. Et donc, du coup, il y a une indemnisation qui s'accompagne d'une relocalisation, c'est-à-dire de l'octroi d'un terrain en périphérie, notamment donc, au Togo, via le cas du site de Djagblé, en périphérie de la ville, qui est vraiment au niveau du front urbain, en fait, aujourd'hui, au-delà de la vallée du Zio, à 15 km du centre-ville. Oui. Donc certes, aujourd'hui, on rejoint la situation décrite par Julie Blot en début d'émission, mais on voit que les choses changent très vite, parce que la croissance urbaine est très rapide.
Mais alors, quand on relègue justement ce petit commerce informel avec ses bidonvilles en périphérie, est-ce qu'on met en place des services, notamment de transport, de l'eau, de l'électricité, l'école à proximité?
Là, il s'agissait d'éguerpissements résidentiels, c'est-à-dire que c'était des maisons qui ont été détruites. En effet, se pose la question, c'est celle de la desserte, bien sûr très... Mais par exemple, dans le cadre de ce site-là de Djagblé, d'où beaucoup de citadins vont partir, en fait, donc eux aussi, ça va être un paysage de ville en attente, comme les terrains libérés sont souvent en attente, ceux que l'on octroie sont souvent aussi en attente d'être construits, parce qu'on va les habiter plus près du centre-ville, plus près du lieu de l'activité professionnelle. Et en même temps, la croissance urbaine étant très très rapide, ces nouvelles villes en fait créées comme à la lisière de l'urbain sont rattrapées par le développement de la ville. Et les réseaux, par exemple, dans le cas de Djagblé, ont été amenés avant l'arrivée des citadins. Donc il y avait l'électricité, l'eau, ce qui n'est pas sans poser problème avec les riverains qui n'ont pas été relocalisés et qui, eux, appelés les autochtones, avec des guillemets, n'ont pas accès en fait à ces services et
c'est
qui
ça.
Du coup symbolisent la ville.
Ce sont les déguerpis qui se retrouvent avec les meilleures conditions finalement.
Les pionniers un peu de l'urbanisation, qui ouvrent le front.
Est-ce que les déguerpis eux-mêmes d'ailleurs se livrent à des spéculations foncières toutes proportions gardées où on installe un membre de la famille sur la petite concession pour pouvoir bien marquer son emplacement à la périphérie de la ville pour pouvoir ensuite revendre éventuellement le petit lopin et revenir dans un endroit non autorisé au centre-ville ou pas?
Tout à fait, ces stratégies vraiment sont très répandues. Oui. Bien sûr, c'est une entrée dans le marché et du coup, à partir de là, on a un projet, on assiste à des projets concurrents très forts dans ces nouveaux quartiers.
Benjamin Michelon.
Et c'est aussi bien au niveau, je dirais, du positionnement initial, c'est-à-dire de la personne qui va construire sur l'emprise qui va être déguerpie en prévision du déguerpissement finalement, donc profiter de l'effet d'aubaine. Hein,
pour avoir une indemnisation.
Pour avoir une indemnisation, ça existe aussi, il faut être clair aussi. Donc ça crée beaucoup de problèmes aussi entre la population qui va être déplacée, qui va être indemnisée et ceux qui ne le sont pas. Il y en a qui profitent des effets d'aubaine, mais ça on ne peut pas dans ce genre d'opération éviter ça.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Alors c'est vrai aussi que les voisins disent bon, on a rasé ce terrain, on n'en fait rien. C'est vrai qu'on expulse rarement pour construire un jardin public. Alors il y a eu bien sûr des marchés plus modernes, mais vous le disiez, qui servent finalement peu au commerce mais plutôt à stocker des marchandises parce que les gens veulent retrouver leurs anciennes habitudes. Donc on se dit quels seraient les bons choix politiques adaptés aux consommateurs, aux citoyens, à ceux qui sont susceptibles d'être déguerpis et qui entravent la circulation, qui créent les embouteillages. C'est quoi la juste politique ?
Juste politique, c'est difficile à dire, mais en tout cas, d'abord, il faudrait évaluer ce qu'on peut faire à la fois en modernisant et à la fois en s'occupant de ce type de population. C'est-à-dire qu'il y a ce commerce qui va continuer de perdurer, comme il continue de perdurer dans les villes, je dirais, occidentales, où on a les marchés le samedi, le dimanche, et qui continue pour un type de clientèle, et avec les marchés plus modernes, les shopping malls, qui sont aussi des choses qui sont de plus en plus amenées à se développer dans les pays en développement. Donc c'est comment arriver à avoir les deux et à permettre à la population à la fois d'être dans une démarche de survie, parce que beaucoup ont parlé de pauvreté, effectivement, il y a une démarche de survie. Hein. La petite vendeuse de tomates, elle n'a pas beaucoup d'argent à la fin de la journée. Hein. Ce n'est pas des produits très chers.
Les déguerpis à qui on voit proposer une place sur un nouveau marché se plaignent aussi d'une flambée des taxes quand il s'agit d'un marché construit en dur.
Ah, mais ça, ils rentrent tout de suite dans l'aspect formel et c'est clair que là, ils sont contraints de payer les taxes. C'est contraint justement ce que disait votre auditeur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les déchets, il faut bien à un moment donné que les déchets, on les ramasse. Donc ça a un coût de ramasser les déchets. Donc c'est la personne qui fait les déchets qui doit payer pour qu'ils soient ramassés. Donc ça contraint tout un nombre de charges qui ne sont pas prévues initialement dans le modèle économique, si on peut parler de modèle économique pour un ambulant, parce qu'un ambulant, lui, c'est pas très bien, il n'a pas de trésorerie finalement. Est-ce que le soir, il va avoir 1000 francs pour pouvoir manger, pour pouvoir faire quelque chose et pour rentrer chez lui?
Ouais, et puis tout ça, évidemment, derrière des voisins qui sont partagés entre avoir une ville plus propre. Le gouverneur de Niamey disait vouloir bâtir une ville coquette en parlant de Niamey. L'expression peut faire sourire. Amandine Spire, vous nous parlerez dans quelques instants d'Accra, où on parle de beautification.
Beautification,
ouais. Exactement, de la ville. Ça évoque aussi la gentrification dans les villes européennes, où certes, ce n'est pas le bulldozer qui déplace les populations, mais enfin, elles sont déplacées toutes seules à la faveur du coût de l'immobilier. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. It's young John, the wicked producer. See, if I could choose, girl, I'd choose you.
If I'm to lose, girl, I want to lose with you. They say not taboo, but girl, I see truth in you. You. She walk on it for me. Do you really care? Show me what for me, baby. Check me in the tower. To be sincere, I will do almost anything for you. Anything for you.
C'est Mama Kiss Daniel chez 7 milliards de voisins. On parle des politiques de déguerpissement. Enfin, politique, faut-il vraiment employer le mot politique de déguerpissement? Vous nous le disiez tout à l'heure, Benjamin Michelon. Précisément, il n'y a pas de politique de déguerpissement. Il y a des points sur la table qui sont frappés et puis des coups de poing pour faire passer un bulldozer et faire table rase au coup par coup. Parfois, ce sont des promesses de campagne, comme c'était le cas au Bénin lors de la campagne présidentielle de Patrice Talon. Les Béninois, d'ailleurs, souhaitaient ces politiques de déguerpissement pour une partie d'entre eux. Nous sommes au téléphone avec Élisée qui nous appelle, un voisin, au 33 1 84 22 71 71. Vous êtes à Cotonou, Élisée.
Oui, bonjour, Manuel Martin.
On vous écoute, la ligne est mauvaise, alors essayez de forcer la voix pour recouvrir la mauvaise qualité de la ligne, Élisée.
Ok, je suis au Bénin à Cotonou, je salue d'abord tous les... Vos invités sur le plateau.
Bonjour.
Bonjour.
Il faut dire que l'arrivée du président Patrice Talon a été annoncée en grande pompe dans cette promesse de campagne. Il avait dit qu'il va essayer d'embellir un peu la ville de Cotonou.
Oui,
il a honoré son état promesse. Mais il faut dire que depuis que l'opération de déguerpissement a démarré, vraiment, les populations peinent à vivre tel qu'ils étaient parce que le Béninois, avant tout, exerçait des activités commerciales au bord de la voie. Et il faut dire que nous sommes dans un pays pauvre et ces activités qui sont exercées rapportaient des rémunérations à ces Béninois-là. Mais quand tout ceci, quand il y a eu des déguerpissements, les gens se sont retrouvés à la rue, ils sont au chômage, encore que déjà le taux de chômage est élevé.
Oui, oui, poursuivez, Élisée, nous vous écoutons.
Il n'y a pas une mesure sociale pour accompagner tout ceci.
Oui, pas de politique sociale. Alors, il n'y a pas que Cotonou, d'ailleurs, qui est concerné par la politique de déguerpissement menée par le président Talon. D'autres villes, les principales villes du pays sont menées. Ce sont des marchés, en général, qui sont rasés. Et quand les gens sont relocalisés dans un espace commercial, évidemment, les taxes flambent. Hein. Je pense que vous l'avez constaté à Cotonou, Élisée.
Exactement. Mais là où le bas blesse un peu, c'est que ces citoyens béninois ne sont pas pour autant responsables. C'est vrai qu'ils sont sur l'espace public, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Il faut dire qu'en temps normal, l'État qui, dans ses prérogatives, devrait informer la population sur le bien fondé de l'opération, a pris un peu de temps avant d'annoncer ces déguerpissements. Rassurez-vous, la mairie a l'habitude de percevoir des taxes auprès de ces personnes qui sont aux abords des voies. Ils perçoivent des impôts qui, que d'une manière ou autre, que soit l'État central ou ces mairies également, ont leur part de responsabilité dans l'installation de ces populations-là aux abords des rues. Oui. Et quand on annonce le déguerpissement tel que c'est fait là, il devrait y avoir l'accompagnement. C'est vrai que vous avez voulu qu'on n'avance pas trop le côté social, mais il devrait y avoir d'accompagnement pour permettre à ces sinistrés-là de mieux s'essouffler un peu. Ouais. On n'a rien vu de tout ceci. C'est vrai que l'État essaie quand même
D'accord, merci beaucoup Élisée. Manque de communication, ça, je crois qu'on a compris, manque d'accompagnement, mais enfin vous pouvez toujours communiquer tout ce que vous voulez. Si les taxes sont multipliées par 3 parce qu'on relocalise des petits commerçants dans un marché en dur, de toute façon ils vont pas être d'accord, non ?
Mais essentiellement, et puis il y a d'autres problèmes, je dirais, au Bénin, il y a l'essence paillot notamment, il y a beaucoup de vendeurs d'essence paillot, donc l'essence trafiquée qui vient du Nigeria, et donc qui se retrouvent maintenant à vendre à l'intérieur des maisons, ce qui crée des problèmes. Un jour ou l'autre, il y en a peut-être une qui va, je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas, mais ça peut créer un incendie et ça crée de graves problèmes. Donc, je veux dire, il y a vraiment une réflexion à avoir. Je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est difficile de juger au Bénin ce qui se passe, parce que le président vient d'arriver, qu'il y a une politique qui se met en place, que José Tonatiuh, le ministre du cadre de vie et du développement durable, essaie de développer une approche en disant voilà, on va faire une ville moderne, ce à quoi aspirent beaucoup d'habitants, hein, faut être clair, hein, beaucoup d'habitants se plaignent des problèmes de trafic.
Avec du ramassage d'ordures, etc.
Voilà. Oui. Et donc, il y a une volonté, mais c'est vrai qu'entre la volonté et la mise en œuvre, il va y avoir un gap, et il y a toute cette gestion sociale des gens qui font du commerce pour s'en sortir.
Amandine Spire, Accra, est-ce que c'est un modèle au Ghana? On parlait du phénomène de beautification de la ville. Est-ce qu'il y a des villes à signaler où les politiques d'expulsion sont bien menées et remplacées par des choses positives, en tout cas pour le bien de tous ?
Un modèle, je crois pas. Mais par contre, en fait, donc à Accra, donc dans la capitale du Ghana, aujourd'hui, voilà, il y a un mot d'ordre très fort qui est celui de la beautification, qui est toujours conjugué à la décongestion, qui sont les deux, voilà, maîtres mots de la ville inclusive, moderne, durable. Et donc, il faut nettoyer les espaces publics, en particulier les trottoirs. Et c'est un réel jeu de, enfin un jeu de chat et souris à longueur de journée. Donc comme l'a dit un des auditeurs, hein, c'est pas une fois dans l'année, c'est presque chaque jour. Et à partir de ces interactions vraiment très communes, où
entre la police
et les vendeurs, de rue qui posent leurs affaires sur un tissu qu'ils sont capables de ramasser et de se décaler de quelques mètres le temps du passage de la police. Et la police n'est pas dupe. Et d'ailleurs, il y a des formes de tolérance, ouais, en fonction de l'âge.
Avec l'argent que coûtent ces déguerpissements quotidiens, on pourrait faire d'autres choses.
Tout à fait, mais c'est lucratif, hein, puisque les marchandises sont parfois confisquées. Et donc, les commerçants doivent
payer. C'est une manière comme une autre de lever un impôt. Benjamin Michelon, vous avez travaillé sur les cas de Douala et Kigali.
Oui, mais ce qui est intéressant, justement, quand on compare ces deux villes, Douala et Kigali, c'est qu'on voit que la question politique est vraiment importante. C'est-à-dire que sur ces questions de déguerpissement, c'est quelle est la volonté politique d'aller jusqu'au bout de l'approche. Et je trouve dans beaucoup de témoignages que vous avez lus ou qu'on a entendus, qu'il y a vraiment cette question jusqu'où on va, pourquoi on fait ça, l'objectif du déguerpissement. Et donc, à Kigali, on peut dire que le président Kagame a véritablement voulu faire de sa ville une vitrine et va jusqu'au bout du processus. Alors, on peut en penser, il y a de la casse sociale, il y a des choses qui ne sont pas, mais il y a une volonté quand même d'aller au bout de cette modernisation et de changer l'image de la ville et de revenir sur tout ce passé, justement, difficile du génocide au Rwanda et d'arriver finalement à rebondir sur une nouvelle ville.
À quelles conditions, avant qu'on se quitte, pour comprendre vraiment les enjeux et surtout l'avenir, à quelles conditions les politiques de déguerpissement vont devenir acceptables et efficaces aussi pour le plus grand nombre? Parce que vous le disiez, finalement, ça concerne, certes, les pratiques sont très choquantes, mais ça concerne pas tant de gens que cela. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met une partie de l'opinion en rogne. Alors, que faudrait-il pour qu'on arrive à fluidifier ces villes sans trop léser ces populations et rendre la ville plus agréable pour tous ?
À condition que finalement les projets soient mis en œuvre. C'est véritablement l'enjeu. C'est-à-dire que si on fait du déguerpissement, il faut bien qu'on fasse comprendre qu'on arrête de jouer au chat et la souris. C'est-à-dire qu'on arrête, à Douala notamment, il y avait sur les maisons, j'ai souvent marqué, 72 heures à démolir à des communautés urbaines de Douala, avec des dates qui dataient d'une année ou de deux années en arrière. Donc finalement, on fait peur aux gens, on les fait payer pour qu'il n'y ait pas de démolition. On ne sait pas vraiment qui va faire payer. Est-ce que c'est le chef de quartier? Est-ce que c'est dans la poche de qui ça va? Ça ne va pas dans la poche de l'État, finalement.
Mais y a-t-il des exemples de projets qui ont pris la place d'un déguerpissement de manière positive? Amandine Spire, je vous sens un peu désarçonnée par la question.
Je cherche. En fait, je pense à... positif, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense à un déguerpissement lors d'un marché qui était situé au centre-ville d'Accra, qui a été déguerpi pour construire un grand complexe luxueux piste d'héliport sur le toit.
Oui, boutique, alors là, c'est positif, mais pour
une certaine catégorie des citadins, disons, qui réclament et qui cherchent voilà, cette image de la modernisation au centre-ville, une très forte visibilité, etc. Et en contrepartie, ces vendeurs qui ont été chassés du centre-ville ont été localisés pas très loin, dans un marché formel à 2 km du cœur du centre-ville. Donc pour une métropole de 4 millions d'habitants, on est encore au cœur de la ville. Alors certes, il y a la perte d'un ancrage local, la perte de réseau, de clientèle, etc. Et en même temps, l'accès à certains droits, notamment l'accès aux services urbains dont on a parlé tout au long de l'émission. Également, l'accès peut-être à des droits politiques, notamment la reconnaissance pour le droit de vote, parce que parfois on vote sur son lieu de travail. Ça se passe assez couramment.
Et puis un titre foncier surtout.
Et un titre...
Donc une forme de sécurité.
Une patente, dans le cas du commerce, ou un titre foncier dans le cas d'un logement.
Merci à tous les deux. Benjamin Michelon, vous êtes socio-urbaniste au groupe 8 et vous avez publié d'ailleurs Douala et Kigali, ville moderne et citadin précaire en Afrique. C'est cette Afrique à deux vitesses typiquement. Amandine Spire, vous êtes géographe, chercheuse au CESMA, Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains, asiatiques, Université Paris Diderot. Merci à toute l'équipe, Thomas Delpech, Camille Néron, Hugo Violas, Rémi de Sagazan. Demain, 7 milliards de voisins, ça sera le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix. Merci à vous tous, les voisins et les voisines, de votre fidélité. On est au micro et on se parle du lundi au vendredi, même heure, même endroit pour le rendez-vous demain sur RFI.